Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Salut tout le monde, merci d'être là en ce vendredi. Ah, on a passé au travers cette semaine investiture de Joe Biden. Il s'en passe des affaires et ça bouleverse bien des gens, dont évidemment les personnes qui sont adeptes des théories QAnon. Là, on a eu quelques événements qui se sont déroulés ces derniers jours qui ont fait beaucoup jaser, qui ont beaucoup peut-être ébranlé les croyances de certains d'entre eux. Donc, ce sera un des thèmes de l'émission aujourd'hui. On aura, et je suis très contente, René Clermont qui est le frère de cet adepte des théories du complot qui a été accusé de possession d'explosifs et d'un chargeur d'armes à feu prohibé. Là, il fait la une d'ailleurs du Journal de Montréal. 13 bombes artisanales qui ont été retrouvées chez lui. Et ça, évidemment, c'est pas rassurant quand on sait ce qui s'est passé au Capitole aux États-Unis. C'était d'ailleurs une des questions qu'on avait. Là. Est-ce que ça va peut-être motiver certaines troupes plus radical du mouvement complotiste québécois à poser des gestes, à s'équiper. Bon, c'est quand même une très bonne nouvelle que la police lui ait mis la main au collet, mais ça doit pas être facile. Et ça n'est pas facile pour les amis, la famille, parce que, comme j'en discutais hier avec Olivier Simard, qui est un ex-adepte de QAnon, à un moment donné, quand tu t'enfonces dans ces théories-là, tu t'isoles de plus en plus, puis ta famille se retrouve à être le témoin un peu impuissant de tout ça. Ça donne lieu aussi à beaucoup de tensions, beaucoup de chicanes. Les amis qui essayent de te raisonner, des amis qui essaient de faire des interventions. Je disais une entrevue très, très intéressante que donnait la sœur d'Alexis Cossette-Trudel il y a quelques mois dans un journal, je pense que c'est dans La Tribune, où elle disait, tu sais, à un moment donné, tu te rends compte que t'as plus rien en commun avec cette personne-là, t'as honte, t'es toujours en train de justifier qu'il fasse partie de ta famille. Donc, c'est tentant un peu de couper les ponts. Puis moi, je retiens vraiment un des trucs que disait Olivier hier puis que je trouve fondamental parce qu'on traverse une crise en ce moment au sein des troupes QAnon. Il y a des gens qui ne veulent plus croire, qui se sentent trahis, qui se sentent trompés. Peut-être profiter de ce moment-là pour tendre la main à ces personnes-là qu'on sent avoir un peu perdu parce qu'il y a une brèche pour les atteindre, il y a un doute aussi. Donc, évidemment, c'est un très bon moment. On va parler plus tard avec le frère de cet homme-là, René Clermont. René Clermont n'est pas l'homme accusé, mais bien le frère de, pour que ce soit clair. Guillaume Lavoie sera aussi avec nous aujourd'hui. On va revenir évidemment sur le cas de Julie Payette qui a démissionné suite à un rapport accablant, puis c'est un euphémisme de le dire. Et là, la question, c'est pas à savoir si le poste de gouverneur général, c'est encore pertinent. Là. Ça, je pense que ça fait longtemps qu'on le sait qu'on pourrait s'en passer. Mais c'est quand même drôle par ailleurs parce que Justin Trudeau devait appeler la reine d'Angleterre ce matin pour la mettre au courant de la démission de Madame Payette. Puis bon, peut-être lui mentionner au passage qu'elle s'est un peu comportée comme Cersei Lannister dans Game of Thrones, là, mais j'aurais aimé, tu sais, le moment de la vie où tu aimerais être un petit oiseau pour entendre cette conversation. Puis par ailleurs, c'est peut-être même pas la reine qui répond elle-même à cet appel. Bref, je le sais pas, mais ça doit être un peu psychotronique. La question, évidemment, c'est pas de savoir, comme je le disais, si ce poste-là est pertinent. La question, c'est est-ce qu'elle devrait empocher son 140 000 piastres à vie parce qu'elle a vraiment gagné au loto, hein? Gagné à vie, là, va avoir 140 000 $. Pas un espèce de paquet de départ, une compensation. Là. Vraiment, c'est ta vie. Elle a travaillé 3 ans. Bon, elle a droit. C'est la loi. C'est comme ça. Mais c'est sûr que ça fait grincer des dents. Puis c'est sûr aussi que ça me donne envie de cacher mon argent dans des paradis fiscaux. Je pense pas que j'en ai assez, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tu regardes ça aller puis tu fais... Ah, c'est vrai que ça me tente pas que mes impôts servent à dédommager Mme Payette. Surtout quand on sait les circonstances dans lesquelles elle a quitté. Tu sais, parce que je comprends, quand t'as servi, hein, puis même si c'est une fonction un peu de potiche, là, ça vient avec le territoire, 140 000 $ à vie, mais quand t'as déshonoré comme ça ta fonction. Puis c'est poche parce que je trouve aussi que ça transparaît sur toutes les femmes dans des postes de pouvoir. Ça entretient les préjugés selon lesquels les femmes qui sont puissantes, les femmes qui occupent des postes importants, ce sont des harpies. Tu sais, fait que je trouve ça vraiment plate qu'on mette autant d'emphase là-dessus, bien qu'évidemment, elle ait bon nombre de choses à se reprocher. Là, c'est pas mal pire qu'on pensait. Hein, je disais Mario Dumont ce matin dans le journal. Là, on le savait que c'était une pas fine, mais je pense qu'on savait pas que c'était une pas fine à ce point-là. On discutera aussi avec Martin Geoffroy un peu plus tard parce qu'il y a un documentaire fort intéressant qui a été fait par ma collègue Marc-Claude Barrette. C'est sur Illico. Ça parle des enfants qui sont pognés dans des cultes religieux, soit parce qu'ils sont nés là ou soit parce que leurs parents sont devenus des adeptes de mouvements sectaires. Et vraiment, ce documentaire-là qui fait la lumière sur les sévices que subissent ces enfants-là. T'sais, on parle de sévices, mais aussi d'éducation. Vous vous rappelez, là, il y avait un couple, il n'y a pas si longtemps, qui poursuivait sa communauté juvassidique pour ne pas lui avoir donné une éducation jugée adéquate. Ils ont perdu, par ailleurs, ce couple-là. Des écoles religieuses, une éducation souvent à la maison ou dans des écoles qui ne suivent pas le programme du ministère de l'Éducation. C'est un mode de vie carrément imposé. Ça laisse des traces, ça laisse des séquelles. Et comme l'exemple du couple de jeux fastidiques dont je viens de vous parler, mais ça donne que si à un moment donné tu veux déserter ton mouvement religieux, ben il y aura personne pour toi. Évidemment, tu pourras pas nécessairement trouver d'emploi parce que tu seras pas diplômé, tu manques de compétences, tu n'as que des compétences religieuses, donc ça vaut pas bien cher, hein, des compétences religieuses sur le marché du travail. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup des sectes au Québec? Est-ce qu'elles sont toutes dangereuses? Et est-ce que le gouvernement pourrait faire quelque chose? Ce sera des questions qu'on pourra se poser un peu plus tard avec Martin Geoffroy. Mais tout de suite, on va aller parler avec Mélanie Perrault, qui est directrice générale du regroupement des aidants naturels du Québec. Parce que, bon, il y a des situations quand même qui sont pas faciles. On le sait, là, avec le couvre-feu, on nous avait prévenu. On pourrait pas parer à toute éventualité. Il allait avoir des situations qui allaient tomber entre les cracks. Et là, on se rend compte que c'est pas facile d'obtenir une exemption durant le couvre-feu pour les proches aidants. Madame Perrault, bonjour.
Bonjour.
Bon, il y a une histoire dans Le Soleil ce matin quand même qui est vraiment touchante et triste. Une femme raconte, entre autres, qu'elle peut pas obtenir une exemption au couvre-feu pour s'occuper de sa mère. Et elle nous explique un peu qu'avant le couvre-feu, elle et des membres de sa famille avaient l'habitude d'aller border, coucher leur mère, une femme qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, parce que si il n'y allait pas, elle se désorganisait. Et là, depuis que le couvre-feu est en vigueur, il faut qu'à 20h, tout le monde ait quitté. Et là, cette dame-là, ce qu'elle dit, c'est bien logique. Là, Madame Perrault, elle dit, écoutez, là, j'aurais pas couché ma mère à 7h30 sous prétexte qu'après 20h, on ne peut plus être là. Je veux bien croire qu'elle est malade, mais elle n'est pas à l'article de la mort et on la couche quand elle est fatiguée. Donc, c'est un véritable drame que vivent ces familles-là, là.
Oui, tout à fait. Puis là, vous parlez d'une personne âgée, mais oui, c'est aussi le cas de personnes en situation de handicap qui vont pas aller se coucher à 20h, mais plus tard, et mais qui ont besoin d'aide pour aller se déshabiller ou effectivement être transférées dans leur lit ou prendre leur douche. Ouais.
Mais pourquoi ces personnes-là ne peuvent pas recevoir de dérogation? Parce que quand même, quand on a mis tout ça en place, on a indiqué quand même que les proches aidants, bien qu'on doive se plier aux consignes là, de la population générale, ils pourraient avoir dans certaines conditions des exemptions, c'est-à-dire qu'on pourrait obtenir un laissez-passer pour se déplacer.
Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que au tout départ, la directive, c'était la personne pivot, donc responsable du programme de soins à domicile, qui connaît le proche aidant et qui lui donne, ou dans les CHSLD, donc pareil, on connaît le proche aidant, on lui donne cette directive. Mais il n'y a rien qui a été stipulé dans le cadre des RPA, des résidences privées pour aînés, comme c'est le cas là de l'histoire qui est sortie dans Le Soleil. Mmh. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de proches aidants qui ne sont pas connus, en fait, du réseau de la santé parce qu'ils ne vont pas forcément au rendez-vous, ils ne sont pas forcément là quand le professionnel de la santé va à domicile. Ils sont là tout le temps après, tout le temps avant, mais pas forcément à ce moment-là. Et donc, ces personnes-là, quand elles vont dire « moi, je suis proche aidant », on ne vous connaît pas, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui vous êtes. La deuxième raison, c'est aussi une vision très médicalisée de ce que font les proches aidants. Et on a vu pendant la première vague, c'était pas une bonne façon de voir les choses. Les proches aidants, ils assurent aussi, comme dans ce cas-là, de la réassurance, des soins psychologiques. Dans ce cas-là, cette dame-là, probablement qu'elle est capable de se coucher toute seule, techniquement parlant, elle peut enlever ses vêtements puis se mettre au lit. C'est vraiment plus un côté psychologique, soutien émotionnel qui est nécessaire. Et tout ce pan-là de la proche aidant, c'est très peu connu, très peu compris. Et quand on parle de médicalement requis, pour un médecin, ça passe inaperçu. Fait qu'on est vraiment dans un double problématique de les proches aidants sont inaperçus et certains bouts de leur rôle sont incompris.
Oui, ben ça passe inaperçu, puis j'ai de la misère à comprendre parce que ce qui doit pas passer inaperçu, c'est la charge de travail supplémentaire, par exemple, si un proche aidant ne se présente pas. Parce que, bon, si je reviens à cet exemple, la dame qui est citée dans le soleil, elle nous raconte très bien que, bon, les risques, si elle ne va pas border sa mère ou si un membre de sa famille n'y va pas, c'est qu'elle se désorganise. Donc, ce fait-là, les infirmiers, les préposés qui sont là ont une charge de travail supplémentaire parce que si cette dame-là se désorganise, ben ils doivent intervenir auprès d'elle et ça prive d'autres résidents peut-être qui n'ont pas d'aidants de soins, tu sais.
Tout à fait. Puis au Canada, on estime en 2015 qu'il faudrait 1,2 million de professionnels de la santé pour remplacer le travail que font les proches aidants. Et là, on parle seulement d'actes techniques. On ne parle pas justement là de cas plus de soutien psychologique, réassurance, qui sont en prévention, dans le fond, qui permettent le maintien à domicile avant que ça devienne catastrophique et que là, il faille des mesures plus importantes. Donc oui, tout à fait, on invisibilise beaucoup tout ce travail-là qui est fait par les personnes proches aidantes.
Bon, et qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, on pourrait obtenir facilement une dérogation? Dans quel cas on va l'octroyer?
Aujourd'hui, je dirais, c'est parce que il faut donner un médicament à telle heure, parce que il y a un soin particulier à donner, c'est vraiment l'aspect médical. Tout l'aspect psychosocial va être mis complètement de côté aussi parce que on se dit que on veut pas donner des tout le monde pourrait se déclarer proche aidant si on allait là-dedans. Et dans le fond, ce que nous on propose comme solution, c'est de dire il y a donc nous on en couvre 103 mais il y en a plus encore que ça au Québec, des organismes qui connaissent les personnes proches aidantes, qui les accompagnent parfois depuis plusieurs années et qui savent du coup bah oui cette personne elle est présente quotidiennement et qui pourrait signer ces exemptions là. Il n'y aurait pas besoin de passer par un médecin qui sont pas mal pris aussi par la COVID, qui ont des délais d'attente parfois de plusieurs mois. Rendu là, le couvre-feu sera passé. Et puis, c'est pas tout le monde qui a un médecin de famille en plus. Puis là, c'est le médecin de qui qu'on va voir? Le médecin de la personne qui est âgée ou le médecin du proche aidant? C'est que ça devient un peu compliqué. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est que dans le fond, les organismes communautaires qui soutiennent les personnes proches aidantes puissent donner ces exemptions-là. On irait beaucoup plus vite, ce serait beaucoup plus simple.
Oui, puis faut pas oublier aussi les proches aidants qui se rendent dans les résidences privées, parce qu'on en a beaucoup parlé dès le début de la deuxième vague, là, des résidences pour personnes âgées, des CHSLD, qu'il faudrait pas répéter l'erreur de la première vague, okay. C'est-à-dire de couper les personnes qui ont besoin de soins de leurs proches. Ça, c'est une chose, je pense qu'on est tous conscientisés, puis c'est la situation qu'on connaît le plus, mais il y a beaucoup de proches aidants qui sont dans les maisons.
Tout à fait. Puis qui sont, alors il y a ceux qui vont habiter avec la personne qui soutiennent, donc ils n'auront pas ce problème-là. Mais il y en a beaucoup, ils habitent à une heure du domicile de la personne qui soutiennent, ou même ne serait-ce que à 20-30 minutes. Et pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'être couché à 18 heures pour que le proche aidant il ait le temps de rentrer chez lui? Ça fait pas de sens. Je veux dire, ça reste des personnes humaines aussi, et elles ont le droit d'avoir une vie. Et aujourd'hui, c'est ça un peu que ça met de l'avant, c'est que dans le cas où la personne a besoin d'aide pour le coucher, ben 20 heures, c'est pas possible. Et donc, il faut vraiment aller plus vaste que simplement ce qui est cliniquement nécessaire là, pour la survie de la personne. Les proches aidants, ils savent ce qu'ils font. Ils savent aussi comment respecter les mesures de distanciation ou les masques et tout ça. Et tout ça, là, ils sont formés là, depuis le mars que tout ça est arrivé. Fait qu'il faut leur laisser cette latitude-là. C'est important parce que sinon, on utilise le réseau de la santé, ça coûte énormément. En plus, eux-mêmes sont en surcharge pour dans un contexte où on pourrait faire autrement.
Mais tout le monde est perdant, finalement. Mélanie Perroux, merci, qui est directrice générale regroupement des aidants naturels du Québec. Si on se disait, quand a été mis en place ce couvre-feu, qu'il y aurait indubitablement des ratés, des lacunes, ben ça, c'en est une lacune, que des personnes soient laissées à eux-mêmes ou obligées de se coucher à 19h30 parce que la personne qui s'occupe d'eux ou d'elles doit partir à 20h, c'est pas tellement humain. On parle de dignité, puis je pense que ça a été au cœur des préoccupations, là, la dignité des personnes âgées lors de la première vague de la COVID-19. Faudrait pas qu'il y ait des gens qui soient pognés pour rester tout seuls après cette heure-là, que ce soit dans les résidences ou dans leur maison, parce qu'il y a un couvre-feu qui empêche leurs proches de venir les aider.